Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine par une tournée sur les marchés actions. Céline Bourban nous attend chez Portes en Parts. Bonjour Céline. Vous nous entendez Céline ?
Je vous entends très bien.
Eh ben, merci. Nous aussi. Bienvenue sur l'antenne de BFM Business. Un petit regard sur cette séance qui a démarré sans véritable direction. Et puis finalement, un peu comme hier d'ailleurs, c'est le rouge qui l'emporte.
Bah oui, c'est exactement ça. Ouais. Les principales bourses européennes se cherchent une tendance depuis ce matin. Paris et Francfort reculent et principalement en raison des craintes de récession, bien sûr, et des interrogations, parce que du côté de la Fed, les annonces seront attendues ce soir à 20h. Gros enjeu sur le discours que Powell tiendra. Globalement, il nous faudrait des mauvais chiffres pour que la Fed commence à lever le pied, mais les statistiques restent malheureusement solides. Ouais. Les chiffres de l'emploi sont plus forts qu'attendus. Idem pour l'indice ISM qui a fortement accéléré sur le mois de novembre. Enfin bref, il n'y aura pas de ralentissement du rythme, mais une probable contraction du niveau de la hausse, du moins c'est ce qu'attendent la grande majorité d'investisseurs, avec une hausse de 50 BP et non de 75.
Voilà pour le cadre.
Affaire à suivre ce soir.
Ouais, on surveillera bien évidemment tout ça. Du côté des valeurs, c'est le jour où vous toilettez un petit peu vos listes et vous vouliez mettre en valeur deux titres, Esker et Villemorin. On commence par quoi ? Par Esker ?
Eh ben, on va commencer par Esker, ouais, tout à fait. Donc nos équipes en fait ont sorti effectivement leur liste High Five pour décembre en espérant convaincre les investisseurs que le Père Noël pourra passer en fin d'année. Donc globalement Esker c'est une belle valeur spécialisée dans la dématérialisation des cycles clients et fournisseurs et la société publiera ses résultats annuels à la mi-janvier 2023. Donc qu'est-ce qui nous soutient pour la valeur ? Les prises de commandes qui ont été records au troisième trimestre avec une dynamique US et Asie qui compense largement le ralentissement en Europe. La croissance organique de 12-14% estimée par le management nous semble tout à fait réalisable et sans compter une rentabilité record entre 13 et 15% et puis un effet dollar qui joue à plein. Donc 2023 sera attendu avec une dynamique tout aussi soutenue au regard du niveau de commandes signées en 2022 avec un chiffre d'affaires récurrent qui devrait être particulièrement important. Donc malgré cette belle performance, le titre continue d'être sous-valorisé tant sur la base des ratios historiques que des comparables sur des opérations de M&A qui ressortent beaucoup plus élevées. Donc Esker traite actuellement à 4,5 EV sales 2023 contre un historique de 5,6.
D'accord.
Et les dernières transactions aux rumeurs M&A aux US induisent par ailleurs des ratios bien plus élevés avec un prix cible pouvant atteindre 222 à 235. Donc nous, on reste confiants et on maintient notre recommandation avec un TP à 180.
Voilà donc pour Esker. Et puis Villemorin ?
Alors, Villemorin, pourquoi ? Parce que c'est un profil défensif sur un marché en croissance régulière. La conjoncture économique a peu d'impact sur la valeur et le marché est fortement dynamisé à court terme par l'évolution du prix des matières premières. Sur les leviers de croissance à moyen terme, on note la hausse des besoins alimentaires, bien évidemment, et l'utilisation croissante des semences commerciales. Donc, les perspectives 2022-23 sont plutôt bien orientées avec une croissance organique estimée à 7% par nos équipes. Croissance qui sera soutenue par les hausses des prix, la croissance des surfaces agricoles, surtout en Amérique du Sud, ainsi que le niveau élevé des prix des matières premières agricoles. Donc au niveau de la marge, on joue l'effet de levier de croissance sur la marge. L'effet de levier de la croissance, oui, sur la marge. Sur la progression, le titre a vraiment fait un beau parcours le mois dernier en enregistrant une hausse de 10%, mais il reste encore en repli de 8% depuis le début d'année, ce qui nous semble assez injustifié. Donc le titre est traité à des multiples particulièrement bas avec une décote entre 37 et 40% sur la moyenne des 10 dernières années. On maintient donc un objectif d'achat avec un TP à 67,5, donc un upside de 37% potentiellement.
Voilà donc quelques idées sur cette séance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc Céline Bourban, depuis Ports-en-Parts à Nantes. Un petit coup d'œil sur le marché qui perd 0,38%, 6662 points. Tout de suite, l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco. Stéphanie Collo.
Et à la une, le gouvernement met en place une nouvelle indemnité carburant. Cette aide de 100 euros sera versée en début d'année prochaine aux 10 millions de travailleurs les plus modestes, annonce d'Elisabeth Borne ce matin. Ça correspond à une remise de 10 centimes par litre pour les personnes parcourant 12 000 km par an, une mesure qui coûtera 1 milliard d'euros à l'État. La consommation d'électricité est à la baisse en France. La semaine dernière, elle a reculé de plus de 8% par rapport à la moyenne des années précédentes et ça concerne désormais tous les secteurs, selon RTE. Toutefois, un premier moment de tension sur le réseau électrique est prévu demain. Et pour la première fois, un signal orange d'EcoWatt pourrait être déclenché lundi avec un appel à la sobriété au moment des pics le matin et en fin de journée. Et malgré ce contexte, les importations de gaz et d'électricité ont nettement reculé en octobre, ce qui permet à la balance commerciale de se redresser un peu. Les importations ont reculé de 900 millions d'euros pour s'afficher à 65 milliards d'euros. De leur côté, les exportations ont décru plus modérément de 400 millions d'euros à 51 milliards d'euros. L'association Alta à l'obsolescence programmée dépose plainte contre Apple. Elle accuse le groupe américain de limiter les possibilités de réparation de ses appareils par des réparateurs non agréés. En 2020, l'association avait déjà obtenu la condamnation d'Apple à 25 millions d'euros d'amende pour défaut d'information dans l'affaire des batteries. Amazon France écope de 3,3 millions d'euros de pénalités pour retard de mise en conformité. La répression des fraudes reproche à la filiale française des clauses abusives dans ses contrats avec les commerçants utilisant la plateforme. CMA-CGM acquiert deux terminaux dans le port de New York. Le montant n'est pas communiqué, mais le chiffre de 3 milliards de dollars est donné par Bloomberg. L'armateur français détient déjà 5 terminaux aux États-Unis. La Chine annonce un allègement général des règles sanitaires contre le Covid. Pékin autorise désormais certains cas positifs à effectuer leur quarantaine à domicile. Et le recours aux tests PCR généralisés est aussi réduit. Un changement radical par rapport à la norme en vigueur depuis presque 3 ans. On termine avec vos rendez-vous de la journée sur BFM Business. Hans-Dieter Luca, l'ambassadeur d'Allemagne en France, sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à 19h30 sur BFM Business.
Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque heure pour suivre cette actualité économique et nous, on retrouve Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Regard Croisé qui accueille ce matin en plateau Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là au rendez-vous pour Financière Arbevel et Vincent Juvin. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci également pour votre présence JP Morgan AM. Il y a pas mal de convictions, on va dire, sur le marché qui a repris quand même plus de 20%. Est-ce que vous assumez un passage en bull market ou bien est-ce qu'il faut se dire de façon un petit peu plus pragmatique finalement, les marchés ont déjà intégré toutes les bonnes nouvelles. Comment voyez les choses, Vincent ?
Je pense qu'aujourd'hui, les marchés sont généralement rattrapés un petit peu par la gravité économique. Je pense qu'on se rend quand même bien compte qu'il y a eu un solide bear market rally, en tout cas depuis le début du trimestre. Je le considérerais à ce stade comme ceci. J'en pense qu'il y a déjà beaucoup qui étaient, en tout cas, de bonnes nouvelles qui sont actuellement dans les cours, de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu observer depuis le début du trimestre, c'est qu'on a été rassuré sur la trajectoire de l'inflation. Certainement aux États-Unis, on commence à en voir potentiellement les prémices en Europe. Mm-hmm. Néanmoins, les chiffres chinois aujourd'hui, globalement, les indicateurs conjoncturels avancés en Occident, on continue à attester du fait que, globalement, la direction économique va a priori vers un ralentissement, même chose pour l'inflation, mais enfin dans l'intervalle, ça va continuer évidemment à peser sur les résultats d'un certain nombre de secteurs et d'entreprises. Et dès lors, je pense qu'il faut rester prudemment investi sur les marchés d'actions. Je pense qu'il ce rebond était logique, compréhensible au vu notamment du repricing de la politique monétaire des principales banques centrales. Maintenant, je pense que l'essentiel du mouvement est fait et qu'une en tout cas une position plus neutre vis-à-vis des marchés d'actions en tout cas fait sens de notre point de vue.
Toutes les bonnes nouvelles sont déjà intégrées, Thibault ?
Alors, c'est pour le problème étant de savoir intégrer où. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un marché qui est...
Alors, le marché ?
Sur le marché obligataire, toujours quand même très en retard, en particulier en termes de spread, alors que le nombre de défauts est quand même pas aggloméré, que si on regarde un CAC 40, on est revenu à un tarif pour l'année qui, compte tenu des perturbations qu'on voit, semble quand même très bénin, surtout en comparaison de la performance hallucinante de l'année dernière. Bon, si on regarde par exemple les small cap, on est plutôt à moins 20 encore sur le CAC small. Donc on est encore pour des résultats en forte hausse cette année sur une dégradation qui est.
Et pourquoi est-ce qu'elles ont un tel retard ces small?
Parce qu'on est dans un marché qui est très géré par des gens qui coupent des shorts. On est dans un marché qui est très géré par des flux, par des paniers. Et ça, c'est des choses qui se passent très vite sur les large cap. On le voit même sur le pétrole. On a des mouvements de 5% sur pas grand chose. Voilà, on est dans un marché market maker passif. Et en fait, une fois que le marché.
Donc c'est circonstanciel, enfin, pour les small caps, c'est pas fondamental.
C'est un marché qui se fait éclater. En 2019, on a un rebond très rapide qui touche beaucoup les larges et qui épargne très fortement les small. Et puis les deux derniers mois de l'année, on récupère toute la perf pour arriver un peu étale. En général, les gens très vite vont sur les choses liquides qui vont monter. LVMH en aura été encore une fois un exemple assez évident. Puis une fois que c'est arrivé, si ça stabilise, les gens disent bon, bah, qu'est-ce qui est en retard? Et c'est vrai que racheter des choses qui sont quasiment au plus haut historique, ça ne fait pas rêver. Racheter des valeurs.
Mais fondamentalement, les small n'ont pas démérité. C'est une question.
Non, en termes microéconomiques, non. Mais si vous voulez, je regardais par exemple votre analyste avant qui recommandait Esker. Bon, c'est quand même une société qui a des résultats plutôt meilleurs qu'attendus, qui a perdu 56% sur un an. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un peu d'euphorie auparavant. Il y a aussi des taux qui sont plus compatibles avec certains niveaux de valorisation. Il y a peut-être aussi des choses qui sont allées un peu fort. Mais c'est vrai que quand on regarde certains indices qui sont à 10 fois les résultats, qu'on compare par exemple les indices comme le S&P qui est revenu à des niveaux de valorisation qui sont plus faibles qu'auparavant mais qui restent tout à fait larges et tout à fait généreux, on a quelque chose qui n'est pas très uniforme. Donc je pense qu'on est dans une phase où il faut regarder un peu partout pour voir un peu où sont les poches qui ont très bien marché, celles pas trop. Et après, bah, ces rotations, elles vont être accélérées par effectivement ces chiffres d'inflation qui viennent vers nous. Parce que bah, c'est en fait les taux qui ont beaucoup différencié les classes d'actifs et on arrive vers des chiffres qui sont complètement centraux parce que entre une statistique de baisse d'inflation qui dit pas grand chose ou en tout cas d'un ralentissement du rythme et deux statistiques d'affilée, on aura quelque chose de très différent. Donc je pense qu'on va arriver sur une zone de vérité dans la semaine prochaine qui va être probablement assez clé pour le sentiment de cette fin d'année.
Bon bah voilà, un peu sentiment sur ces marchés. Vous avez un regard vous sur ces small caps qui effectivement sont un peu dans la panade ou c'est
Oui, clairement, de notre point de vue, la faveur est quand même au large cap à l'heure actuelle, certainement en Europe ou indépendamment du, en tout cas des valorisations qui sont aujourd'hui plus attractives. Si je reprends l'univers de manière générale, c'est quand même un univers qui est aujourd'hui plus challengé, l'environnement de taux, l'environnement énergétique, l'inflation, coûts salariaux, coûts énergétiques. Globalement, on a quand même des small caps qui sont plus à risque dans ce contexte-là que ne le sont les large caps.
Allez, un petit mot de ce qui préoccupe un petit peu tout le monde. C'est bien évidemment la réserve fédérale. C'est ce pivot qu'on attend, qu'on espère, qu'on voudrait réussir à dessiner. Est-ce que, selon vous, les chiffres de l'emploi américain qui sont tombés vendredi dernier sont de nature à plomber un peu les intentions de la Fed? Vincent, on a l'impression que Jerome Powell lui avait essayé de confirmer, d'accréditer cette thèse que le pivot approchait.
Non, alors bon, le pivot, attention, hein, le pivot défini comme cette, finalement, ce moment où la Fed commencerait potentiellement à baisser les taux, on n'en est pas là. On
va non, baisser, mais au moins que la hausse soit terminée.
On va baisser le rythme, on est à 4% pour l'instant, 50 points de base, prochain meeting, peut-être un taux terminal 5-5,5, donc deux tiers du travail est déjà fait, ce qui pour les marchés est d'ailleurs finalement un signal intéressant. Aujourd'hui, les vents contraires d'un point de vue monétaire le seront sans doute moins en 2023, donc ça c'est notre conviction, donc ça c'est une bonne chose. Je pense que les chiffres de l'emploi change pas finalement le message. Je sais pas s'il y avait vraiment un message d'ailleurs la veille de ce rapport de l'emploi, mais en tout cas il est certain que les chiffres de l'inflation aux États-Unis finalement c'est plus qu'un point donné. C'est aujourd'hui déjà plusieurs mois d'affilée que les prix à la consommation baissent, que les prix à la production baissent. Donc on est quand même là clairement dans une phase de décélération de l'inflation qui permet finalement à la Fed de temporiser. Donc de notre point de vue, le taux terminal c'est vraisemblablement aux alentours de 5,25-5,5. En tout cas pour les marchés equity, ça pourrait être quelque chose de favorable l'an prochain. C'est déjà quelque chose qui, je le pense, est particulièrement important pour les marchés obligataires. Je l'ai rappelé sur ce plateau à maintes reprises. Nous, des taux treasuries américains au-dessus de 3,5, c'est quelque chose qui nous intéresse, certainement dans ce contexte, en tout cas, d'une Fed qui va temporiser dans les mois qui viennent.
Thibault, est-ce que vous pensez que ça contrarie Jerome Powell, ces chiffres?
En fait, ces chiffres, à mon avis, sont à la fois une nouvelle qui est préoccupante et une excellente nouvelle. Toute la question étant de ce que donne l'inflation. Si l'inflation reflue, nettement, ce qui me paraît assez logique compte tenu de cette accumulation de statistiques, mais on a eu quand même une inflexion forte le mois dernier, puisque en dehors du logement, on est passé négatif, ce qui est quand même assez important. À ce moment-là, on se dit, quelque part, si l'inflation baisse, tous les chiffres avancés, les prix du logement, le fret, les engrais sont tous à la baisse, donc on a l'impression que c'est un mouvement qui va continuer. Si c'est le cas, c'est peut-être pas la peine de s'aborder l'économie pour le plaisir. Donc, des bons chiffres d'emploi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si l'inflation repart à la hausse, voilà, des chiffres d'emploi qui sont toujours très bons, ça sera plus préoccupant. Donc en fait, l'idée, c'est que dans un scénario très noir sur l'inflation, on n'a pas envie que les chiffres d'emploi soient très bons. Dans un scénario où l'inflation rechuterait beaucoup, on a plutôt envie, parce que c'est quelque part le meilleur moyen d'éviter un landing, c'est quand même ça. C'est-à-dire que les gens changent leurs habitudes de consommation quand ils ont peur de perdre leur job. Quelqu'un qui n'a pas peur de perdre son job n'a pas tellement de raison de se mettre à épargner comme un fou. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, le chiffre a été intéressant parce qu'il a d'abord vu une baisse assez classique du Nasdaq de l'ordre de quasiment 3% sur l'annonce, et puis il est revenu finalement à l'équilibre. Parce que justement, la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Et en fait, c'est que l'inflation qui nous dira si c'est une mauvaise nouvelle. Si on a cette confirmation de ralentissement de l'inflation, toute bonne nouvelle économique est une bonne nouvelle. Si on a une inflation qui repart à la hausse...
Donc le vrai chiffre reste celui de l'inflation.
Le vrai chiffre reste de l'inflation. Et le point intéressant, c'est que le scénario craint par le marché, c'était cette forte stagflation, c'est-à-dire une économie qui se casse la figure et l'inflation qui reste très haut. C'est un scénario qui a perdu une prod de probabilité, ce qui explique aussi ce rebond de marché, et qu'un scénario positif, qui est l'inflation qui continue à accélérer à la baisse, sachant qu'on a des effets de base en plus qui, à partir de février-mars, vont fortement s'inverser, et une économie qui tiendrait bon, est un scénario un peu green shoot, qui n'existait pas du tout, et qui a une probabilité qui, tout en restant faible, parce qu'il y a peu de probable qu'on évite une récession au moins mineure, commence à exister. Donc en fait, ce chiffre...
s'observe d'ailleurs assez bien dans le secteur de la construction, où on a finalement des gros désordres dans le marché immobilier du fait de l'augmentation des taux aujourd'hui. Pas de baisse de prix, parce qu'il y a vraiment une sous-offre au niveau des biens immobiliers, une incapacité de l'offre à s'ajuster à la demande notamment.
Voilà donc pour cette thématique inflation, dira-t-on. Il y a aussi une news importante ce matin qui nous vient de Chine. C'est ce choix de Pékin de mettre fin, je pense qu'on peut le dire comme ça, à la politique zéro Covid. C'est de nature rassurant, que ce soit au niveau social, au niveau sanitaire, au niveau économique, Thibault ?
C'est pas évident, Cédric. C'est pas évident parce que si je reprends de manière un peu provocatrice ce que vous venez de dire, qu'il y a un risque que l'inflation aille plus haut que prévu, on avait peut-être un risque qui dessinait que l'inflation rebaisse beaucoup plus vite que prévu. Parce qu'il y a un phénomène autoréalisateur, on voit le pétrole qui marque des plus bas, maintenant au plus bas d'un an, etc. Et on pouvait se demander, bah, une fois que ça commence à baisser, que l'inflation baisse, que les prix de l'immobilier baissent avec des taux élevés, ça peut accélérer. Donc on avait un risque asymétrique. La Chine vient un peu changer la donne parce que le consommateur chinois est quand même absent depuis 2 ans, qu'il va créer un nouvel afflux de consommation qui peut évidemment nous aider à éviter une récession, ou en tout cas en limiter l'ampleur du ralentissement mondial, mais ça peut créer de l'inflation, ça peut créer de la demande. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu asymétrique, c'est-à-dire que cette ouverture, on voit bien qu'aujourd'hui on a un fret qui s'est effondré, on a 0 bateau en attente aux US, donc cette capacité à améliorer les chaînes de production, pour certains acteurs, hein, quand on parle, je sais pas, des Trigano ou autres, c'est quand même un sujet sur l'automobile, mais pour beaucoup d'autres acteurs, c'est plus du tout un sujet, et donc quelque part, on a perdu cette problématique-là qu'on va gérer à un moment où on n'en a plus besoin. Par contre, on est content de voir l'inflation baisser, avoir une consommation qui repartira, ça va être un peu plus compliqué. Donc l'équilibre entre les deux est incertain, c'est quand même malgré tout fondamentalement une bonne nouvelle. Et c'est amusant de noter, hein, que les auditeurs ne savent peut-être pas que le mondial de football aura probablement été un des forts déclencheurs de ce mouvement. C'est-à-dire que il faut quand même voir qu'en Chine, on leur explique que c'est pareil chez nous, chez eux que chez les autres, sauf que comme chez eux c'est mieux géré, ils ne meurent pas alors que chez nous tout le monde meurt. Et donc voir des stades avec 60 000 personnes qui s'embrassent en maillot, sans masque,
ça leur a fait bizarre.
Voilà, alors du coup, la Chine a essayé de flouter un peu les foules pour pas que ça se voit, mais enfin bon, globalement, quand même, l'info circule à minima. Et c'est vrai que c'est devenu socialement compliqué parce qu'ils étaient en fort décalage avec maintenant tout le reste de la planète. Donc, c'est terminé. Il y aura certainement quelque chose d'un peu d'opportunité. Après, il faut pas oublier que la difficulté qu'on a eue quand même dans la réouverture 21-22, ça a été, un, de reconstituer les stocks. Aujourd'hui, ils sont malgré tout déjà reconstitués. Et deux, ça a été le transport. Trouver des routiers, trouver des bateaux. Bon, si la Chine rouvre, elle consomme massivement quand même des biens chinois, ça soulève quand même moins de difficultés à ce niveau-là. Donc une incertitude, principalement sur l'effet sur l'inflation, globalement, malgré tout, évidemment, une bonne nouvelle. À suivre quand même, c'est moins évident que ce que ça peut paraître de premier abord, compte tenu de la situation actuelle qui est plus complexe.
Quelle est, Vincent, votre lecture de cette évolution majeure annoncée à l'issue d'un comité central ?
On retrouve une Chine qui est pragmatique. Je craignais un petit peu l'entêtement dans cette politique zéro Covid. Je craignais que lâcher du lest aujourd'hui soit tellement perçu comme perdre la face pour les autorités finalement qu'ils ne le feraient pas. Donc quelque part, oui, pour différentes raisons, en tout cas, il y a cette approche pragmatique aujourd'hui est absolument nécessaire. Quelque part, on pouvait anticiper que, relâchement ou pas, Omicron avait signé la fin de la propagation du Covid-19 en Occident. Ça allait être la même chose en Chine. Donc je pense qu'on a ici une réouverture tout à fait nécessaire. Je pense qu'en effet, elle ne va rien apporter sur le point de vue des chaînes logistiques qui se sont déjà finalement, qui ont retrouvé leur niveau pré-crise, si je puis dire. La Chine avait fait en sorte que son industrie et autres fonctionnent largement. Alors ça arrive à un moment, cette ouverture où l'Occident est à la peine. On parle quand même de récession ou à tout le moins de fort ralentissement conjoncturel. Ça s'observe d'ailleurs depuis 2 mois dans les chiffres d'exportations chinois qui sont au plus bas, notamment depuis le début 2020 et depuis le début de la crise du Covid notamment. Donc il faut absolument relancer cette économie domestique au moment où finalement on ne peut plus croître par les exportations. Économie domestique qui va quand même pas bien sur l'immobilier, on le sait, mais notamment, enfin il y a toujours évidemment dans cette économie gérée de manière centrale, ce contrat social qui en tout cas il faut en tout cas converger vers plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois. Or, on a un chômage des jeunes qui explose tout à fait littéralement en Chine, donc il faut absolument réparer quelque part ce contrat social avec la population. Donc là, ce sera l'enjeu pour voir si cette réouverture, en effet, nous donne en tout cas un boom sur la consommation qui pourrait être bénéfique d'ailleurs pour pas mal de groupes occidentaux, je le pense, qui a quand même des effets négatifs, rappelons-le, c'est qu'on pouvait en tout cas se satisfaire d'une Chine plus ou moins à l'arrêt ces derniers mois, parce qu'elle était évidemment moins consommatrice d'énergie. Aujourd'hui, pour le premier trimestre 2023, attention tout de même, terme, avec une Chine qui va se remettre à importer peut-être plus massivement du gaz liquéfié notamment. Des contrats importants ont été conclus d'ailleurs dernièrement avec le Qatar, pour ne pas le citer. Donc là, il y aura un peu plus de compétition aussi. Donc, opportunité et risque à voir. Les marchés hésitent évidemment aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est certainement un pas dans la bonne direction pour pas mal de secteurs, notamment pas mal de secteurs de services. Si les Chinois font ce qu'ont fait les Américains ces derniers mois en Europe, reprofiter en effet des services, des voyages et autres, eh bien en tout cas, des pays comme la France en profiteront assez largement, je pense.
Merci à tous les deux d'avoir participé à Regards Croisés ce matin donc. Vincent Juvens pour JP Morgan et la financière Arbevel et Thibaut Prébet. À très bientôt messieurs. Le marché parisien, lui, il est dans le rouge, vous le savez, c'est pas non plus énorme, -0,48%, mais la tendance s'est dessinée négativement, 6655 points. On va voir dans un instant ce qu'on en pense du côté de Boursicoté. Et puis n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Tout de suite, on file chez boursicoté.com pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine où nous attend Gilles Santacreux qui suit pour nous les évolutions de ce marché. Et Gilles, on a opté pour la baisse.
Oui, alors c'est une baisse qui est tout à fait mesurée. Tout à l'heure, à 10h30, je vous indiquais un support à 6650 points. On est venu tester 6654. Donc, on est venu tester cette zone de support. On a fait un premier rebond. Là, on est en train encore une fois de retester cette zone. Tant que l'on est au-dessus de ce niveau, on est toujours dans la même configuration. Il faut savoir que cette zone des 6650 points, c'était une résistance que nous avions sur l'évolution daily depuis le milieu du mois de novembre. On l'a franchie. Maintenant, cette zone agit comme support. Clairement, on reste pour l'instant dans une tendance qui reste globalement haussière, même si le momentum reste faible, mais pour l'instant qui ne remet pas en cause la tendance de fond. On a eu une sortie de la précédente dynamique, mais pour l'instant, pas de retournement et donc par rapport à la configuration actuelle, on ne change rien. Au niveau du global du marché, ce que l'on peut noter aujourd'hui, c'est la baisse du pétrole. On a un WTI donc, qui a cassé une zone majeure à $75 le baril. On a désormais un objectif moyen terme à $70.40 le baril. Au niveau du Brent, on a cassé 84 et on vise, d'un point de vue là vraiment moyen terme, un retour sur une zone 69.50-70 le baril. Et je dirais que l'attention sur les indices se porte notamment sur les indices américains, puisque d'un point de vue technique, si on considère une dynamique moyen terme depuis le début de l'année, on a en analyse technique ce qu'on appelle une loi de Dow qui, d'un point de vue moyen terme, donne toujours une perspective qui est baissière. On a des successions de sommets qui sont baissiers, ainsi que les successions de points bas. Et on est en train de valider un sommet qui nous replacerait dans une perspective baissière. Donc attention, parce que si les indices américains baissent, en général, les indices européens suivent. Donc c'est un élément qu'il va falloir surveiller. Pour l'instant, en tout cas, on ne change rien. La zone à surveiller, c'est 6650 points. D'un point de vue global, on a deux niveaux à surveiller si ce niveau des 6650 points venait à céder. 6590 points. Et enfin, un point de retournement que l'on situe à 6520 points qui, en cas d'attaque, là, effectivement, nous donnerait un signal de changement de tendance et de risque d'un nouveau mouvement baissier. Mais pour l'instant, tant que l'on est sur ces niveaux, même si on a une perte de dynamique, même si on ne parvient pas à aller chercher de nouveau plus haut, ça reste relativement stable sur l'indice parisien.
Merci beaucoup pour cette lecture graphique de la séance du jour et son suivi ce matin. Gilles Santacreux depuis boursicoté.com, le marché parisien donc qui pour le moment a opté pour une baisse de 0,49%, 6654 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Matières à réflexion qui, ce matin, accueille Marie-Eugénia Sanin. Bonjour Marie-Eugénia et merci d'être en duplex avec nous, maître de conférence à Paris-Saclay. Et on va s'intéresser notamment aux matières premières et à cette question du pétrole russe qui marque vraiment la semaine, hein.
Oui, c'est l'actualité de la semaine, la mise en place finalement de le plafond pour le prix ainsi que l'embargo européen.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
En fait, côté européen, ça veut dire qu'on met en place l'embargo dont on parle depuis des mois et des mois. Le plus important, c'est que cet embargo va prendre en considération, va affecter seulement le pétrole qui arrive par bateau, c'est-à-dire 2/3 du pétrole européen, du pétrole russe importé en Europe. L'autre tiers qui arrive par tuyau, par pipeline, n'est pas touché. Donc c'est 2,2 millions de barils par jour, dont 700 000 arrivent par pipeline. Ces pétroles, il est très important pour les pays qui n'ont pas accès à la mer. Et pour les pays de G7 et de l'Australie qui ne sont pas en Europe, il n'y a pas d'embargo, il y a un plafonnement sur le prix du pétrole qui a été un peu critiqué parce qu'il se place à $60 le baril, proche du prix qu'il y avait le baril lundi où la mesure a été mise en place. Et ils sont aussi décidés de ne pas affréter, c'est-à-dire de ne pas envoyer du pétrole à des autres destinations en utilisant leur compagnie, c'est-à-dire les pays du G7 et de l'Australie dominent le marché international de l'affrètement du pétrole. Et donc, effectivement, les pétroles qui est vendu à un prix plus élevé que $60 le baril ne pourra pas être affrété par ces compagnies. Bien évidemment, on parle quai pour le pétrole russe.
Voilà pour ce premier état des lieux. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le marché ?
Paradoxalement, le plafond sur le prix va avoir un impact plutôt inflationnaire sur le prix mondial du pétrole, c'est-à-dire le Brent. D'ailleurs, le jour où la mesure a été mise en place, le Brent a augmenté de 2%. Ça, c'est le cas parce que effectivement, on risque de voir moins de pétrole russe un peu de partout, et donc surtout par rapport à cette contrainte de l'affrètement, et donc avec une demande soutenue et une offre plus contrainte, le prix international du pétrole risque d'augmenter, et il faut se préparer à ça, notamment ici en Europe.
Ouais. Sur l'Europe, plus qu'ailleurs peut-être ?
Sur l'Europe plus qu'ailleurs, parce que nous, on a un embargo, c'est-à-dire que nous, on va véritablement devoir ces 2/3 du pétrole russe qui ont importé jusqu'à ces lundis, on va devoir le substituer. On a commencé à le faire, mais on n'a pas fini de le faire. L'OPEC a déjà réuni, a dit qu'il n'allait pas augmenter les quantités produites. Voilà, donc et comme on a vu ces derniers temps, 30% du prix à la pompe en France est le prix du pétrole. Donc si les prix du pétrole mondial risquent d'augmenter, on risque d'avoir des montées encore sur le prix à la pompe.
Vous avez rappelé, Marie-Eugénie, au début de votre intervention, que c'est quelque chose dont on parlait depuis longtemps, que ça finissait par arriver. C'est un pari quand même assez risqué, pour nous en tout cas. Est-ce que, de l'autre côté, est-ce que c'est un vrai coup pour les Russes ? Parce que, en admettant que par exemple, ils décident de couper les pipes, ça va être bien gênant pour les pays européens qui n'ont pas accès à la mer.
C'est ça. Effectivement, c'est un pari très risqué parce que le fait de limiter le prix du pétrole russe à la vente internationale ne va pas avoir un impact énorme d'un point de vue financier pour la Russie parce que la Russie vendait déjà à des prix décomptés en Inde, en Chine, en Turquie, donc pour nous substituer comme demandeurs. Donc le prix ne va pas leur changer, cette cape sur le prix ne va pas le changer énormément. La seule difficulté qu'ils pourraient rencontrer, et on va voir comment ça se passe, c'est le fait que nous, Européens, on a interdiction d'arrêter le pétrole russe.
Bien sûr.
Donc, notamment, par exemple, les Grecs, qui sont très importants dans ces marchés, vont pas pouvoir en, faire partie de cet acheminement, et les Russes vont devoir trouver des substitutions. Ouais. C'est là où ça va se jouer, mais c'est très compliqué à contrôler de toute façon. On risque de voir des stratégies, des substitutions de ces services assez intéressantes.
Et du coup, vous qui surveillez un petit peu tout ça au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire pour cesser de financer la guerre? Parce que c'est aussi le but finalement de toutes ces tergiversations européennes.
Oui. Malheureusement, on a une seule solution, que c'est diminuer drastiquement notre demande des pétrole et de gaz. Donc, et c'est pas en substituant, parce qu'il n'y a pas de substitut, c'est un cartel, le marché du pétrole, il est déjà, la demande, l'offre de pétrole est déjà contrainte. Donc, le seul moyen, c'est de diminuer la demande. Et pour diminuer la demande, il faut électrifier les utilisations, donc passer des énergies fossiles à l'électricité, et augmenter notre capacité de générer notre propre énergie. Ça peut sembler difficile, mais il y a plusieurs scénarios très bien faits, costeux, et même, bien sûr, inclus en REPowerEU, qui nous montrent un chemin, et c'est une opportunité pour industrialiser l'Europe et la France.
Merci beaucoup Marie-Eugénie Sanin, donc pour l'Université Paris-Saclay, maître de conférences en économie qui nous accompagne très régulièrement sur ce terrain des matières premières. Un petit coup d'œil justement sur ce Brent de la mer du Nord qui est à 78,43. Le CAC lui baisse, on perd 0,49%, on est à 6655 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et pour gérer la sélection de BFM Patrimoine cette semaine, en plateau, on accueille François Chollet. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Pour Montségur Finance, et en ligne avec nous depuis Fastea Capital, Thibaut François. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric, bonjour François.
Merci à tous les deux d'être là ce matin. Votre regard sur ces marchés qui ont repris quand même nettement du terrain. Alors, est-ce que on est dans un bull market? Est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bon, finalement les marchés, ils ont probablement déjà intégré toutes les bonnes nouvelles?
Oui, le Père Noël est déjà passé, on a eu un mois magnifique de performances boursières un peu partout. On a vu beaucoup de pressions qui étaient liées au taux d'intérêt et au crédit, notamment je pense aux entreprises européennes qui voyaient des spreads de crédit se tendre de manière difficile, qui se sont réduits de manière très importante. Et il faut bien voir que quand on perd 2% sur des indices de crédit à 5 ans, c'est déjà 10% de gains sur les portefeuilles obligataires sur ces classes d'actifs. Donc on a vraiment un soulagement de fin d'année qui a touché l'ensemble des classes d'actifs, et même d'ailleurs les pressions sur le change, par exemple, qu'on a connues notamment par la faiblesse de l'euro vis-à-vis du dollar, se sont détendues dans des proportions significatives. C'est quasiment 10% qu'il y a entre le point bas sur l'euro-dollar à 0,95 et 1,05 que nous avions, même je crois qu'on a fait 1,06 au plus haut sur les parités de change en l'espace de quelques semaines. Donc c'est un soulagement général des marchés, et donc on peut dire que par rapport à ce qu'on a vécu tout au long de l'année 2022, le Père Noël est déjà un peu passé. C'est pas une bonne année, ça ne le sera a priori pas. Il n'empêche, on n'est plus dans une configuration horrible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a connu cette année quelque chose qui n'était jamais arrivé dans ces proportions-là, des baisses extrêmement marquées des indices à peu près partout, et surtout la baisse concomitante de toutes les classes d'actifs dites sûres ou dites, on va dire, supposées contrebalancer les actifs risqués que sont les actifs obligataires. On avait des pertes qui étaient quasiment aussi importantes sur l'une et l'autre des classes d'actifs, et ça, c'est historiquement un événement très rare.
Thibault, toutes les bonnes nouvelles sont déjà pricées, comme on dit en bon français ?
Ouais, on a un rebond effectivement depuis un mois qui est assez significatif sur les gros indices. Le CAC 40 en a bien profité, c'est plutôt pas mal, mais l'écart type de performance reste quand même extrêmement important. Dans le SBF 120, on est quand même sur plus de la moitié des valeurs du SBF 120 qui perdent plus de 20% depuis le début de l'année. On est même sur du moins 70, moins 80 sur certains dossiers. Certaines valeurs du CAC 40 qui perdent encore 40 ou 45% depuis le début de l'année. Donc certes, il y a eu un rebond, encore une fois, bien emmené par les grosses pondérations de l'indice. Les LVMH qui est repassé positive, Total qui gagne, qui est positif depuis le début d'année et assez de façon assez significative. Donc c'est vrai que les grosses pondérations ont bien remonté depuis quelques semaines. Les bonnes nouvelles, est-ce qu'elles sont intégrées? Je dirais pas partout. C'est-à-dire que on a encore beaucoup de valeurs qui sont très en retard et qui sous-performent nettement depuis quelques mois, quelques années, voire quelques années. Notamment les petites et moyennes valeurs. Donc on s'est intéressé aussi, le marché s'est intéressé, on va dire, aux large cap et aux grosses pondérations de l'indice. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un rattrapage aussi sur les autres valeurs de l'indice CAC 40, mais aussi sur les valeurs qui sont en dehors de l'indice CAC 40? On va le voir dans les prochaines semaines, mais en tout cas, c'est vrai que l'année est moins pire que prévu sur le CAC 40. Elle reste encore très difficile en dehors du CAC 40 et sur les autres classes d'actifs. Le rebond obligataire, on l'a pas eu encore de façon très peu marquée par rapport à la baisse de la partie obligataire qu'on a connue depuis le début de l'année. Les taux, certes, rebaissent un tout petit peu. On a perdu 0,5, 0,6 points sur l'OAT française. Mais le rebond des obligations tarde à venir parce qu'on n'a toujours pas de visibilité encore sur cette inflation qui ralentit. Mais on aimerait avoir quelques trimestres de visibilité sur l'inflation. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas.
Pour autant, quand on voit que le CAC perd 6-7%, si le 1er janvier dernier, au mois de février, on vous avait dit non, mais en décembre, ce sera moins 6,5, vous auriez signé dès demain, non, François ?
Dans un contexte, effectivement, de guerre, de tension sur l'énergie et sur les approvisionnements, dans un contexte de volatilité des matières premières et de crainte sur les marges des entreprises qui ont du mal à répercuter ces hausses de prix, c'est pas trop cher payé. Ouais. Et il faut pas se tromper, l'année 2022 pour les entreprises a été très bonne. Les contributions aux profits que sont par exemple le luxe, que sont l'énergie, que sont même le secteur bancaire et financier sont très favorables et ont porté les profits du CAC 40 et porteront l'année prochaine les dividendes d'ailleurs de cet exercice 2022. Pour parler d'habillage de fin d'année et de, on va dire, la trêve
Parce qu'il nous reste plus sujet... beaucoup de séances.
Non, mais il y a un sujet encore où il peut y avoir un rebond un peu technique. C'est sur les small caps européennes qui enregistrent des replis très significatifs depuis.
Qu'est-ce qui explique justement ? Bon, parce que on le rappelle, nous, notre univers de valeurs sur la sélection, il est pas trop typé mid cap et small cap parce qu'on voulait rester sur un portefeuille liquide, etc. Et on voulait pas entraîner les épargnants qui souhaitaient répliquer finalement ce portefeuille sur des valeurs qui pouvaient les mettre en risque en termes de mouvement et de liberté de mouvement. Mais malgré tout, on peut quand même parler bourse. Et là, on voit que ces mid cap, elles sont à la peine. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pêché ou...
Alors, elles sont moins susceptibles d'aller capter parfois la croissance qui peut exister dans certaines zones en dehors de la zone euro. C'est souvent des entreprises qui sont un peu domestiques. Elles n'ont pas forcément toujours des positions très dominantes dans leur secteur. Et donc, la capacité à répercuter les hausses de prix n'est pas toujours aussi claire. Et puis, il y a clairement, d'un point de vue strictement boursier cette fois-ci, un problème de liquidité. C'est-à-dire que les investisseurs, en des périodes de volatilité ou d'inquiétude, utilisent beaucoup, on le voit de plus en plus, les ETF, c'est-à-dire les indices pour s'investir, les très grandes capitalisations, comme ça ils ont la profondeur de marché, s'ils souhaitent sortir et vendre leur investissement en cours de période, eh bien il n'y a pas de difficulté à le faire. Et donc on a vu les flux de capitaux privilégier les grandes valeurs liquides et sortir massivement des petites et toutes petites entreprises cotées européennes, et c'est ce qui justifie, après quand même, il faut le dire aussi, une année 2021 qui avait été extrêmement favorable, le recul qu'on a pu connaître. Et donc c'est pour ça que je dis simplement, en fin d'année, souvent, comme ce sont des titres qui appartiennent parfois encore pas mal aux dirigeants ou aux fondateurs, ben vous avez des phénomènes en fin d'année d'habillage où les titres sont un peu plus recherchés qu'ils ne l'ont été dans une année difficile comme ça a été en 2022 pour ces petites et moyennes entreprises européennes.
Thibault, ça vous interpelle cette sous-performance des petites et moyennes capis, vous également?
Bah, ça m'interpelle, oui, parce que on se retrouve sur des niveaux de valorisation qui sont complètement délirantes sur les petites et moyennes valeurs. Alors il y a effectivement la partie flux qui joue pour les big cap et beaucoup moins sur les small cap, mais il y a aussi un problème, on va dire du secteur financier. Aujourd'hui, la plupart des grandes valeurs sont bien suivies par les brokers. Donc il y a peut-être 10, 15, 20 brokers qui vont suivre le Total, les BMH et les valeurs du CAC 40 en général, règle générale, parce que ces brokers, ces analystes financiers sont rémunérés par les flux qui sont sur ces big, sur ces grosses valeurs. Et les petites valeurs, plus personne ne suit les dossiers. Il y a certains dossiers, nous, qu'on suit en interne, il n'y a aucun analyste financier dessus. Les dirigeants, la plupart du temps, sont appelés deux ou trois fois dans l'année par les gérants. Et en fait, il n'y a plus personne qui suit ces valeurs. Plus beaucoup d'informations sur les dossiers. Donc, ce sont des valeurs qui généralement sortent du marché principal pour aller sur les marchés, on va dire secondaires, anciennement Alternext, marché libre, etc. Et donc, on se retrouve sans aucune information, sans aucun flux sur ces dossiers-là, alors que ce sont des entreprises qui fonctionnent plutôt bien, qui sont la plupart du temps des entreprises familiales, qui captent de la croissance, qui ont des marges qui sont plutôt intéressantes. On se retrouve aussi avec des situations particulières où la capitalisation boursière tombe en dessous de la trésorerie nette de l'entreprise, alors qu'elles ont des actifs financiers. Et je pense que ce rattrapage va être extrêmement important dans les prochaines années, parce que depuis 2018, c'est un secteur de la cote qui sous-performe nettement la partie large cap. Et je pense que cette valeur ajoutée potentielle sur ces petites et moyennes valeurs va intervenir dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, dans les prochaines années. Et je pense que c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faudra être vigilant et aller chercher de la valeur ajoutée pour les clients dans les prochaines années.
Bon, voilà pour le cadre dans lequel évolue notre marché avec cette césure entre les différents types de valorisation. Maintenant, regardons un peu notre sélection. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais elle n'aura pas beaucoup brillé cette année. On accuse un repli quand même assez net sur l'indice CAC 40. Quel premier bilan on peut tirer de cet exercice 2022?
Alors, la difficulté de cette sélection, c'est... Bon, effectivement, on a parfois manqué un peu de mobilité dans le portefeuille. Ça, c'est quelque chose qui est assez criant. On a manqué aussi des poids. Mais c'est quelque chose qu'on dit de manière criante, c'est que l'indice CAC 40 n'est pas représentatif aujourd'hui pour des raisons simplement techniques. Il y a trop de luxe, quasiment 30% de l'indice.
Ouais, et on rappelle que nous, on part tout le temps sur de l'équipondération.
Voilà, et nous, on est équipondéré, ce qui est très difficile pour nous quand on a des telles déformations par rapport aux indices. Clairement, ça aurait plus de sens de le comparer à un indice plutôt large européen qu'à l'indice français qui est devenu trop petit pour les grands géants du luxe, notamment LVMH, qui est la première pondération. On a le même sujet avec l'énergie. On a difficulté quand l'énergie est un tel contributeur. Je pense à Total ou Engie qu'on avait dans le portefeuille. On a vendu les Total sur des niveaux récemment au profit de GTT. Mais clairement, on avait du mal à suivre ce secteur-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu parfois des choix qui n'ont pas été très, très bons. On a eu quelques opérations qui ont été très largement sanctionnées. Je pense à un dossier comme Esker, dans les valeurs moyennes.
On a tout payé sur Esker. Voilà.
On a vraiment subi sur ce dossier-là à la fois la fermeture du marché des small caps en Europe et puis la défiance absolue sur les multiples des valeurs de technologie. C'était une valeur qui, je rappelle, faisait de la digitalisation des factures.
Thibault, votre sentiment, voilà, premier bilan de cette sélection?
Oui, effectivement, il est pas bon parce qu'effectivement François parlait de Total, effectivement c'est pratiquement 30% d'écart entre la performance du CAC 40 et la performance de Total cette année, c'est 10% ou un peu plus de l'indice. Nous effectivement on peut pas en avoir plus de 5%, donc ça devient compliqué en fait. À partir du moment où les grosses pondérations de l'indice font des très bonnes performances, c'est extrêmement compliqué de suivre un indice. On peut pas le répliquer et il faut l'avoir systématiquement au portefeuille dans des grosses pondérations dans des grosses proportions tout au long de l'année. Donc c'est extrêmement compliqué à suivre. Bon, on a aussi le phénomène où on a été plutôt sur des valeurs de rendement depuis le début d'année. On cherche de la rentabilité, on cherche du récurrent, et donc on a été plutôt sur ce genre d'entreprise. Donc ça n'a pas forcément gazé cette année. Après, effectivement, des mauvais choix. Là, on a rentré GTT la semaine dernière ou il y a 15 jours. Bon, il y a une décision de justice qui vient de tomber, qui est pas favorable qui est pas forcément très bien interprétée sur GTT, qui est tombée cette semaine. Ils ont perdu en appel sur les contrats coréens. Donc il va falloir changer un petit peu la partie réglementaire et la partie contractuelle avec les futurs contrats avec la Corée. Ça a pesé sur le titre. On a perdu pratiquement 10% sur la semaine. Voilà ce genre de nouvelles qui sont pas forcément bonnes. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, GTT a un super carnet de commandes. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour GTT de se développer en Corée avec des contrats qui seront séparés entre la partie engineering et la partie assistance. Et je pense qu'on va retrouver rapidement des cours plus intéressants sur le dossier du GTT. Mais bon, Typiquement, ça fait partie, en plus des scares, des petits accidents qu'on peut avoir sur la sélection.
Bon, pour terminer, vous imaginez encore des arbitrages d'ici la fin de cette année, un peu d'habillage après tout, le contexte de marché ne s'y prête plus vraiment en ce moment.
Oui, on a fait des liquidités dans le portefeuille. Elles nous ont pénalisé un petit peu dans le rebond.
À 15%.
Voilà. Mais je participe en tout cas d'une revue stratégique du portefeuille pour démarrer 2023. Ouais. Ça me paraît nécessaire. On est en train de le mener évidemment chez nous.
De toute façon, on rappelle, on repondère en fin d'année et puis vous discutez entre vous aussi sur des règles qui évolueraient ou pas.
C'est pas toujours simple au 1er janvier. Voilà, mais clairement, il y a nécessité de se voir et de se faire une réunion de gestion, on va dire, un peu plus dense que simplement par téléphone ou par mail pour vraiment préparer, parce que c'est vraiment un point important dans cette période-là. Effectivement, on peut encore faire un peu en fin d'année quelques opérations d'habillage, etc., dans les portefeuilles, dans les mandats ou dans les allocations que nous pouvons avoir, mais c'est clairement la stratégie qu'il faut finaliser pour démarrer l'année et prévoir les comportements que l'on peut avoir dans le premier trimestre.
Vision partagée, Thibault ?
Oui, tout à fait. On va voir un petit peu dans les prochaines semaines. Amandine nous parlait de la partie santé intégrée dans le portefeuille. Ça fait partie des pistes effectivement qu'il faudra surveiller pour le début d'année 2023.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents cette semaine. Donc François Chollet, Montségur Finance, Thibault François pour Fastea Capital. Dans un instant, c'est 60 minutes business que vous retrouvez comme chaque jour et on accueille donc Sandra Gandois.
Bonjour Cédric.
Bonjour Sandra.
On va parler de l'indemnité carburant de 100 € disponible à partir de janvier pour 10 millions de travailleurs les plus modestes, annonce d'Elisabeth Borne ce matin. On en parlera avec Thomas Schnell. On parlera aussi de ces délestages, de ces coupures de courant. On est au pied du mur. Pourtant, ça fait des années que on nous parle de smart grids, de boîtiers intelligents capables de nous donner plus de flexibilité en la matière. Pourquoi est-ce qu'on a pris autant de retard ? Frédéric Simotel viendra nous en parler, nous donner des explications. Et puis la semaine de 4 jours, on en parle beaucoup, on la voit peu pour le moment. Est-ce que c'est la suite logique du télétravail ? On posera la question à Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, qui sera notre invité, Cédric.
C'est à suivre dans une poignée de secondes, 60 minutes business. Le marché parisien, lui, est en repli. Il perd 0,55% à 6650 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.